I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
For this episode of Kat and Nat Unfiltered, we've partnered with eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Listen, in another world, it would have been Kat and I together, but it was so important that when we were looking for our partners, that we found someone who just understood who we were and accepted us for who we were. The two of us found our marks, and we were just the same kind of people as we are today, but who knew that we would be going on the road, going on stage, going on tour, and basically having a non-filtered life. And they still have been the ones who stood by us and always supported us. So that's something that you really want to look for. And luckily, at this time, we actually have in our lives. We also love to talk about on our podcast about relationships and hear from you guys, and also always share our own individual stories, because talking about relationships and what makes them important just makes us all feel like we belong, and it gives us hope that we too could be in a relationship where you can just be with your person. We know dating isn't easy, and that's why we partnered with eHarmony, because dating is different on eHarmony. They want you to find someone who gets you like the marks get us, someone you can be fully comfortable with, unfiltered, we like to say. Their compatibility quiz helps your personality come out in your profile, which makes all the profiles on eHarmony way more interesting and fun to read. Oh, we could spend some time on there. So give eHarmony a shot. Get started with their compatibility quiz so you can find someone you can be yourself with. Find that person. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une évasion qui a coûté la vie à deux hommes, deux agents de l'administration pénitentiaire. Le mardi 14 mai, en Normandie, en fin de matinée, à un péage de l'autoroute A13, un commando a attaqué un convoi pour en extraire un détenu. Mohamed Amra, âgé de 30 ans, condamné pour vol avec effraction et extorsion, il est soupçonné par ailleurs de trafic de drogue et d'avoir commandité plusieurs meurtres. Qui est-il? Comment s'est déroulée cette évasion? Et pourquoi s'est-elle soldée par un bilan aussi lourd? On fait le point dans Code Source aujourd'hui avec trois journalistes du service police-justice du Parisien, Christelle Brigaudeau, Jean-Michel Descugis et Ronan Folgoas. Ronan Folgoas qui a pu échanger avec le père de l'un des deux fonctionnaires tués, Arnaud Garcia. Christelle Brigaudeau, le mardi 14 mai, Gabriel Attal réagit à l'évasion sanglante d'un détenu le jour même au cours d'un transfert dans l'heure. Le ton du Premier ministre est solennel.
Ce matin, dans l'heure, deux agents de l'administration pénitentiaire sont morts en accomplissant leur devoir.
Il intervient devant l'Assemblée nationale avec un visage grave. Il explique que, je cite, ce matin dans l'heure, c'est la République qui a été attaquée. Et puis il finit par ces mots qui sonnent un peu comme un slogan en disant « Nous les traquerons, nous les trouverons, ils paieront ».
Nous les traquerons, nous les trouverons, et je vous le dis, ils paieront.
Jean-Michel Descugis, c'est rare que des gardiens de prison, des agents de l'administration pénitentiaire soient tués dans l'exercice de leurs fonctions ?
Oui, c'est très rare. Le dernier était en août 92, le dernier surveillant tué. C'était à l'intérieur d'une cellule, une prison. C'est un surveillant qui avait été agressé par un détenu.
Christelle Brigaudeau, l'un des deux agents de l'administration pénitentiaire qui a été tué, se prénommait Fabrice. Qu'est-ce que l'on sait sur lui ?
Alors, Fabrice, c'est un homme de 52 ans qui est capitaine. C'est quelqu'un qui est assez aguerri, qui a commencé sa carrière dans l'administration pénitentiaire en tant que surveillant à la prison de Caen. Puis, il y a environ une dizaine d'années, il a pris ses fonctions au service des escortes judiciaires, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de transférer des détenus du tribunal à une maison d'arrêt ou une prison. Dans sa vie privée, il était père de deux enfants, des jumeaux qui allaient fêter là, cette semaine leurs 21 ans. C'est un homme qu'on m'a décrit comme un grand sportif, quelqu'un de discret qui vivait dans un pavillon avec son épouse dans la banlieue de Caen et qui ne faisait pas tellement parler de lui.
Même question pour le deuxième fonctionnaire qui a été tué le mardi 14 mai, Arnaud Garcia, qui était-il ?
Alors, c'est un fonctionnaire un peu plus jeune, il a 34 ans, il était brigadier depuis 2009 et lui aussi avait commencé en tant que surveillant pénitentiaire. Et puis, c'est un peu le cours normal d'une carrière dans ce type de profession. Il a passé son habilitation et depuis 2 mois, il était lui aussi au service des escortes judiciaires. Donc, il était plus récent, disons, dans le métier. Et par ailleurs, il s'attendait à être papa dans les prochains mois puisque sa femme est enceinte de 5 mois. Et Arnaud Garcia était également engagé dans le syndicat des surveillants pénitentiaires, le SPS, où il avait créé la section locale parce qu'il était assez investi, disons, dans l'amélioration des conditions de travail des surveillants.
Jean-Michel Descugis, en plus de ces deux hommes qui ont été tués, il y a aussi des blessés.
Il y a 3 blessés. Un très léger qui est sorti de l'hôpital, qui avait été blessé à l'oreille, et puis 2 autres plus sérieusement, dont un très gravement, qui est aujourd'hui encore entre la vie et la mort. Selon nos informations, il a reçu une balle dans la tête et il doit être opéré dans les heures qui viennent.
Alors on va revenir plus tard dans ce podcast sur les faits proprement dits, sur ce qu'il s'est passé le mardi 14 mai vers 11h au péage d'Incarville en Normandie. Mais d'abord on fait le point sur l'homme qui a été extrait de ce fourgon. Il s'appelle Mohamed Amra, il est surnommé La Mouche. Jean-Michel Descugis, pourquoi est-ce qu'il était en détention ?
Il purge 3 condamnations pour des vols avec effraction, des vols avec armes, des extorsions.
On sait dans quelle prison il a été détenu ?
Alors, il a été détenu à Fleury-Mérogis la première fois. Ensuite, il est allé au Baumettes, à Marseille. Puis, il est passé par la Santé. Et il était, depuis le mois d'avril, dans la maison d'arrêt d'Evreux dans l'Eure.
Mohamed Amra a 30 ans. Il a grandi dans la région de Rouen. Est-ce qu'on sait comment il a débuté dans le banditisme ?
Il a débuté par des petits délits, des vols avec effraction, des vols avec violence. Ensuite, il a gravi les échelons. Et même s'il n'a jamais été condamné pour ça, on sait qu'il est dans les stupéfiants et à un niveau assez important puisque il est à la tête d'un réseau de drogue dans la région de Rouen, mais il commandite aussi des meurtres.
Jean-Michel Descugis, précisément, Mohamed Amra est soupçonné d'avoir commandité une tentative d'assassinat en juillet 2023 en Espagne dans la station balnéaire de Marbella.
Donc on est le mardi 18 juillet 2023 vers 18h et un homme avec une arme de guerre va tirer dans des rues de Puerto Banús, qui est une marina de luxe de la ville de Marbella, qui se trouve en Andalousie. Il est entièrement vêtu de noir, il a un foulard noir, une casquette, et il va rafaler comme ça dans les rues, et il va ensuite s'enfuir à bord d'une BMW qu'on retrouvera 10 km plus loin, calcinée. Il se trouve que ce tireur portait un maillot de football de l'équipe de Lyon. Et que, évidemment, les enquêteurs espagnols vont tout de suite faire le rapprochement avec un Français.
Suite à cet événement, des proches de Mohamed Amra sont visés en Normandie.
Une semaine plus tard, le 25 juillet 2023, 2 hommes de 34 et 38 ans sont assassinés en pleine nuit dans le quartier de la Madeleine à Évreux. Il y a parmi eux un proche de La Mouche. Et c'est à partir de cette enquête que les policiers vont remonter à La Mouche comme pouvant être celui qui avait commandité cette tentative de meurtre d'un nommé Mehdi, qui est une tête de réseau, rival, semble-t-il, de La Mouche, qui est d'Evreux et qui se trouvait à cette époque-là à Marbella.
Et d'après vos informations, il devrait être mis en examen prochainement dans ce dossier. Autre soupçon qui pèse sur Mohamed Amra, il est au cœur d'une enquête sur un règlement de compte qui s'est produit en juin 2022 près de Marseille.
Dans les calanques marseillaises, ou Rove exactement, on va découvrir dans une voiture le corps d'un dealer qu'on identifiera un peu plus tard, qui est d'origine kosovare et qui est de Dreux. et c'est une affaire de barbecue. Ces barbecues, ce sont des meurtres où la victime, on retrouve son corps calciné dans une voiture. C'est une spécialité marseillaise. Et donc cet homme a été éliminé dans une affaire de ce qu'on appelle de carotte, c'est-à-dire de vol de drogue. Et le commanditaire serait Mohamed Amra. En tout cas, les policiers de l'OCLO, l'Office central de lutte contre le crime organisé, vont aller l'extraire de sa cellule à la santé à Paris pour le mettre en examen. Il va être mis en examen par un juge de Marseille pour ce meurtre commis en bande organisée.
Et il est soupçonné dans une autre affaire.
Il est aussi mis en examen dans une tentative d'homicide à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, comme commanditaire de cette tentative de meurtre.
Jean-Michel Descugis, on en arrive aux événements les plus récents. Le dimanche 12 mai, Mohamed Amra se fait remarquer de façon négative dans la maison d'arrêt d'Evreux.
Oui, des surveillants vont remarquer un ruban adhésif rouge collé sur un des barreaux. Et il semblerait qu'il ait tenté de scier le barreau de sa cellule. Ce qui pose question, parce qu'on comprend mal pourquoi, deux jours avant son évasion, il scie le barreau de sa cellule.
Jean-Michel Descugis, le mardi 14 mai, Mohamed Amra, la mouche, a un rendez-vous avec un juge pour l'une des affaires dans lesquelles il est soupçonné.
Il a rendez-vous avec un juge du tribunal judiciaire de Rouen pour cette fameuse tentative d'homicide commise à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. Il est accompagné d'une collaboratrice d'un gros cabinet d'avocats parisiens. Tout se passe normalement. Jamais cette avocate aurait pensé qu'une demi-heure après, regagnant le fourgon pénitentiaire, il allait s'évader.
Sur le chemin du retour, le convoi, un camion et une voiture, ralentit à l'approche du péage, le péage d'Incarville, dans l'Eure. Que se passe-t-il ensuite, une fois ce péage franchi ?
Une fois que le fourgon pénitentiaire a franchi le péage, eh bien, une Peugeot 5008 noire, qui arrive en sens inverse, lui rentre dedans pour l'immobiliser. Immédiatement, une autre voiture vient se poster derrière le fourgon pénitentiaire. Au moins 4 malfaiteurs en descendent, cagoulés, vêtus de noir, fortement armés de Kalachnikov, et vont immédiatement, sans aucune sommation, abattre les surveillants. Ils n'ont laissé aucune chance aux deux surveillants qui se trouvaient à l'avant du fourgon pénitentiaire. Les policiers vont trouver plus d'une trentaine de douilles au sol.
Plusieurs témoins ont assisté à cette scène.
Oui, beaucoup ont filmé. D'ailleurs, très vite, des vidéos vont être postées sur les réseaux sociaux où on va voir partiellement et entièrement la scène, où on va, sur certaines, voir les deux surveillants abattus de sang-froid. On voit une vidéo notamment où ces témoins filment à travers un pare-brise du véhicule. Tous vont raconter une scène de violence inouïe. C'est vraiment une scène de guerre.
Que se passe-t-il ensuite ?
Ensuite, le détenu, Mohamed Amra, va suivre le commando et la première voiture, la 5008 Peugeot 5008 noire, va être retrouvée sur place, en partie carbonisée. Ensuite, le détenu va être exfiltré dans une deuxième voiture qui va être retrouvée un peu plus loin, aussi carbonisée. Et enfin, les policiers retrouveront un troisième véhicule, une BMW, également carbonisé.
Ronan Folgoas, vous, ce mercredi 15 mai, vous êtes en reportage dans le Calvados pour rechercher des témoins, des proches, des deux agents de l'administration pénitentiaire qui ont été tués. Et dans un petit village du Calvados, Blangy-le-Château, pas très loin de Lisieux, vous avez pu rencontrer le père de l'une des deux victimes, Arnaud Garcia.
Oui, il s'agit d'un homme de 64 ans, Dominique Garcia, lui-même ancien gendarme, ancien commandant même de la brigade locale, qui a donc eu une expérience, des terrains difficiles, des confrontations, des accidents. Dominique Garcia est dans une forme de réserve, il ne veut pas non plus s'exprimer trop longuement, évite les micros et les caméras. On a pu échanger quelques mots sur le seuil de son domicile, ça Finalement, la conversation a duré quand même une vingtaine de minutes et j'ai senti aussi chez lui, bien sûr, un immense chagrin, un peu de désespoir, mais pas encore d'abattement. C'est-à-dire que c'est un père qui cherche à comprendre.
Comment est-ce qu'il a appris la mort de son fils ?
Alors, c'est d'abord sa belle-fille qui l'a alerté en lui disant qu'un guet-apens mortel venait de survenir au péage d'un Carville dans l'Eure, que des membres de l'administration pénitentiaire étaient concernés. Évidemment, c'était l'inquiétude, puisqu'il savait que son fils Arnaud était sur la route ce jour-là, sans savoir précisément où, quel moment. Il a donc appelé d'abord l'administration pénitentiaire, qui refusait de lui donner quelconques informations. Et en fait, il a été rappelé dans un temps très court par le garde des Sceaux lui-même, Éric Dupond-Moretti, qui est responsable à ce titre aussi de l'administration pénitentiaire. Et c'est Éric Dupond-Moretti lui-même qui lui a appris la mort de son fils.
Quelles sont les questions que se pose cet homme, Dominique Garcia, aujourd'hui ?
Il cherche à comprendre qui sont les hommes du commando impliqués dans cette affaire. Et puis aussi, il se pose des questions, évidemment, sur l'organisation de l'escorte. Où était situé son fils ? Est-ce que c'était dans le fourgon, comme on peut le pressentir ? Ou est-ce que c'était dans la voiture à l'arrière du convoi ? Est-ce que toutes les règles de sécurité ont bien été observées dans l'organisation de cette escorte ? Mais il ne cherche pas de coupable au sein de l'administration pénitentiaire, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne spécule pas sur d'éventuelles complicités internes qui auraient pu informer les membres du commando. Il ne va pas du tout sur ce terrain-là. Il admet avec une certaine lucidité, peut-être, et beaucoup de fatalisme, qu'à partir du moment où un détenu, comme ça, a un rendez-vous judiciaire, plusieurs personnes peuvent naturellement être informées, ça, la défense de ce détenu, et puis aussi des proches, et donc que ça peut circuler très vite comme information.
Jean-Michel Lécugis, l'avocat de Mohamed Abra, affirme qu'il est possible que son client soit en fait victime d'un enlèvement orchestré par des hommes qui lui en veulent. Est-ce que ça vous semble possible ?
Non, et ça ne semble impossible aux enquêteurs. Parce que, effectivement, on voit, ne serait-ce que sur les images, le détenu s'en aller, suivre le commando en toute sérénité, sans entrave. Et puis, ça ne correspond pas au mode opératoire. C'est impensable de venir braquer un fourgon pénitentiaire pour faire évader quelqu'un qu'on voudrait ensuite séquestrer. Non, on est venu chercher Mohamed Amra, parce que, sans doute, il est à la tête d'un réseau important de drogue, et que c'est quelqu'un qui est peut-être passé un petit peu sous les radars, parce qu'il n'était pas présenté comme un gros caïd, mais qui avait quand même commandité des meurtres.
Donc en fait, il est monté très vite dans le banditisme.
Il est, je pense, monté très vite dans le banditisme, comme aujourd'hui, on monte très vite dans le narco-banditisme. C'est vraiment la drogue, le trafic de drogue qui fait que des types en 5 ans peuvent passer de petite main du trafic à chef de réseau, commanditaire, tueur à gages. Voilà, on est dans une problématique aujourd'hui où les gens montent très très vite, mais leur espérance de vie est très courte.
Récemment, au printemps, des magistrats marseillais ont dénoncé devant une commission d'enquête parlementaire une mexicanisation de la criminalité en France. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme, mexicanisation ?
Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, la drogue rapporte beaucoup d'argent et que, on va avoir des modes opératoires semblables à ceux qui sont utilisés en Amérique du Sud, avec par exemple des tueurs à gages, des jeunes tueurs à gages, des sicarios qu'on appelle là-bas, hein, des sicaires, qui sont commandités pour aller tuer des gens qui ne connaissent même pas pour quelques milliers d'euros. Et on est dans une problématique comme ça de guerre de la drogue entre clans qu'on ne pensait pas possible il y a encore quelques années, avec une accélération, avec aussi de la corruption. Et c'est ça que la commission du Sénat dénonce, ce risque réel et qui existe déjà de fonctionnaires qui vont se faire corrompre parce qu'il y a beaucoup d'argent, et ça peut être aussi des surveillants de prison, parce que évidemment se pose la question d'une complicité à l'intérieur même de la prison d'Evreux, parce que le commando savait exactement à quelle heure et par où allait passer le convoi pénitentiaire.
Jean-Michel Lécugis, l'un de vos contacts, un grand flic, comme on dit, estime qu'on n'est pas face à de vrais professionnels.
De vrais professionnels comme on les imagine à l'ancienne. Pourquoi ? C'est ce qui m'explique, c'est que, évidemment, il aurait été beaucoup plus complexe de faire une sommation, de récupérer les armes, de gérer les surveillants, donc ils sont allés au plus vite, ils les ont tués. Donc ça, c'est des types qui, évidemment, n'ont, pour qui la vie humaine n'a pas de valeur. Mais ils bloquent mal le fourgon, c'est-à-dire la voiture qui va venir à l'arrière ne bloque pas le fourgon. Ensuite, on voit, c'est assez long, c'est presque 3 minutes, ils auraient dû aller beaucoup plus vite. En plus, on voit qu'ils se cherchent, ils ont l'air d'hésiter, on a l'impression que les rôles n'ont pas été définis en amont, c'est pas minuté. Et puis surtout, ils n'arrivent pas à incendier le véhicule qui a été volé. Sur place, ils vont le laisser alors qu'il n'est pas incendié. Et donc, ils vont laisser des traces, évidemment. Des traces ADN, des empreintes digitales, tout un tas d'éléments que, évidemment, les enquêteurs vont analyser, sont en train d'analyser.
Jean-Michel Lécugis, qui mène l'enquête et comment elle va se dérouler ?
Alors, il y a plusieurs services qui mènent l'enquête, mais celui qui centralise l'enquête, c'est l'OCLO, l'Office Central de Lutte contre le Crime Organisé, qui a déjà enquêté sur Mohamed Amra dans cette affaire de meurtre en bande organisée dans les calanques marseillaises. Les enquêteurs connaissent l'environnement de Mohamed Amra. Ils vont travailler sur cet environnement, sur les points de chute éventuels, sur les endroits qu'il fréquente. Ils ont déjà travaillé sur lui. Il y a peu de temps, un an. Donc, voilà, ils ont des éléments, ils ne parlent pas de rien. Il y a énormément de moyens qui sont mis. Alors, il y a eu le plan Épervier, qui a duré 4 heures, mais il y a énormément de gendarmes mobilisés, il va y avoir des contrôles inopinés, des choses comme ça. Bon. Mais c'est pas ça qui, ou à moins d'avoir un coup de chance, mais c'est l'enquête de police judiciaire qui va permettre de retrouver le commando et de l'arrêter. Et ça, c'est une enquête au long cours. Les policiers activent toutes les sonnettes, c'est-à-dire, les sonnettes, c'est les indiques, C'est tout ce qui peut rapporter de l'information. Donc là, c'est une enquête tout azimut avec les éléments dont ils disposent en l'état.
Merci à Jean-Michel Descugis, Christelle Brigaudot et Ronan Folgoas. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Barbara Gouy. Réalisation, Julia Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous vous proposons également 2 autres podcasts disponibles eux aussi sur toutes les plateformes audio. Crime Story, récit d'une grande affaire criminelle avec un nouvel épisode chaque samedi. Et puis Le Sacre jusqu'à Paris 2024, chaque mercredi, un ou une médaillée d'or olympique nous raconte son chemin vers son sacre olympique.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.